Votre invité à présent, Patricia Martin, c'est la journaliste Michèle Cotta pour son dernier livre, Le Paris de Mitterrand. Paris, c'est la capitale de la France. Le Paris de Mitterrand, paru aux éditions Alexandrine.
Bonjour Michèle Cotta.
Bonjour.
À la mort de François Mitterrand, une cérémonie a donc eu lieu à Notre-Dame en présence d'une vingtaine de chefs d'État. Est-ce qu'il aimait cette cathédrale ?
Alors d'abord, double cérémonie, comme vous savez, a eu lieu, l'une à Jarnac, personnelle, intime, et l'autre avec les 20 chefs d'État, dont Helmut Kohl, dont on se souvient qu'il pleurait. Alors, il aimait bien cette cathédrale,
il a habité rue de Bièvre,
c'était pas très loin. Rue de Bièvre, donc il la voyait tous les matins, mais je dois dire qu'il préférait celle de Saint-Denis. Parce que il a amené beaucoup de ses amis, sa fille, voir la cathédrale de Saint-Denis où les rois sont enterrés. Mais enfin, comme le général de Gaulle, il a choisi donc de se faire enterrer à Notre-Dame.
Et on apprend en vous lisant qu'il aimait les églises. Vous racontez d'ailleurs qu'il donnait rendez-vous à Anne Pinjot au début de leur relation dans l'église des Blancs Manteaux dans le Marais.
Oui, c'est un point de rendez-vous, et effectivement les églises, celle de Port-Royal aussi, il faisait partie d'une de ces promenades. Il s'arrêtait d'église en église. Alors, Notre-Dame, il connaissait très bien et les détails, et etc. Mais celle de son cœur, c'était quand même Saint-Denis.
Il s'est promené à Paris, au fond, comme il a pu se promener, j'imagine, à Angoulême, ou faire des promenades dans la nature, dans la campagne. Il y a une façon d'appréhender comme ça, à hauteur d'homme, le paysage, les rues, les monuments.
Oui, je crois qu'à Angoulême, il n'a pas eu l'occasion, puisqu'il était en pension, se promener tellement. Mais il aimait se promener dans sa Charente natale, avec généralement une vieille carriole, enfin dans une vieille carriole, et puis après, il partait à pied très loin. Il a toujours aimé ça. Et finalement, quand il a retrouvé Paris, il a tout de suite eu envie d'arpenter toutes les rues comme si c'était pour prendre ses marques, vous voyez. Alors, il était rue de Vaugirard, il allait naturellement au Luxembourg, Saint-Michel, c'était son quadrilatère. Et au fond, son quadrilatère n'a pas tellement changé, parce que même lorsqu'il a été à l'Élysée, là, ça bouclait le quadrilatère. C'était rive gauche, rive droite d'un côté, et je dirais Notre-Dame, les Invalides de l'autre.
Il arrive donc à Paris en 1934 pour y poursuivre ses études. Est-ce qu'il y a un côté chez lui Rastignac à nous de Paris, ou c'est pas exact
de dire ça ? C'est ce qu'on a dit. On l'a dit très tôt, et François Mauriac, qui connaissait ses parents, l'a dit. Non, il est arrivé comme un jeune homme qui, en effet, voulait faire quelque chose à Paris, parce qu'il sentait qu'Angoulême, c'était trop petit pour lui. Mais après tout, est-ce que c'est ça, Rastignac ? Ce qu'il a voulu tout de suite, c'est apprendre, et la passion de la lecture a été sa première passion.
Et indissociable Paris de la politique, d'ailleurs vous écrivez que le Mitterrand politique est né à Paris, Salva Graham, c'est même daté du 10 juillet 1943.
Il était donc avant la guerre, né dans une famille assez conservatrice. Il était donc du côté des conservateurs, c'est-à-dire largement anti-Front populaire. Et puis avec le temps, il s'est évadé après avoir été fait prisonnier. Il est retourné à Vichy. Et en 1943, c'est là où spectaculairement il lâche Vichy aux Veldives devant des milliers de personnes. Et il n'a que le temps de condamner le régime et de s'en aller par une porte latérale, alors que tout le monde protège sa fuite. Donc c'est là où, en fait, est né le vrai Mitterrand, qui après tout se retrouve dans la 4e République tout de suite, et avec le général de Gaulle.
Est-ce que la vie parisienne le séduisait, ou il la regardait tout de même avec un œil assez distant ?
Je crois qu'il y a eu plusieurs périodes de ce côté-là. Je crois que lorsqu'il était jeune, d'ailleurs il note lui-même la première fois où il est allé, il s'est rendu à un bal à l'Élysée. Et alors il faisait tout à fait, il y avait une vie mondaine chez lui sous toute la 4e République. On le voit beaucoup en train de faire des inaugurations, en habit. Et après, je dois dire qu'après les années 58, cette passion du Paris mondain lui est passée.
François Mitterrand, c'est évidemment l'homme des grands travaux, qui n'ont pas forcément plu d'ailleurs à tout le monde. L'Opéra Bastille, la Pyramide du Louvre.
La Pyramide du Louvre, surtout.
C'était audacieux.
C'était tout à fait audacieux. L'histoire de la pyramide est extraordinaire. Au fond, on peut en retirer, après malheureusement l'incendie de Notre-Dame, deux voies. La première, concours international pour remplacer ce qui pour reconstituer la grande nef, enfin le toit, concours international sûrement. Et après, en effet, c'est le président qui choisit. Mais par exemple, si on se réfère à Mitterrand, il a toujours laissé une grande liberté à ses architectes. Il a choisi entre 3-4 projets et in fine, après une commission d'expertise, mais c'est l'architecte qu'il a choisi. Et la pyramide notamment, moi je me rappelle les extraordinaires polémiques que ça a fait, quoi, une pyramide dans cet endroit. Mais par exemple, là, pour Notre-Dame, on peut se demander si, après tout, la flèche de Viollet-le-Duc qui a été faite dans les années 1850-1860 était vraiment à la base de la construction de Notre-Dame. Donc, au fond, il faudra imaginer autre chose et c'est aux architectes de le faire.
Oui, mais justement, alors, on va pas faire parler les morts, évidemment, mais qu'aurait-il décidé, choisi, à quoi aurait-il pensé? Parce que c'est déjà un sujet de polémique en ce moment, hein, la reconstruction de Notre-Dame.
Oui, mais de toute façon, tout fait polémique. Je pense qu'il aurait fait confiance aux architectes. Il aurait choisi en laissant les architectes s'exprimer.
Mais avec, encore une fois, un esprit d'audace.
Voilà, et sans trop se préoccuper des polémiques, parce que on a vu que malgré la polémique, après tout, le Louvre s'est fait en presque 5 ans.
Ouais, ouais. Et c'est de ça, à votre avis, dont il était le plus fier, du Louvre? Parce qu'il y a eu la Grande Bibliothèque.
Fier de la Grande Bibliothèque, évidemment, ouais. Mais c'est le Grand Louvre dont il a été le plus fier. Et d'ailleurs, il a marqué Paris par ses constructions comme personne d'autre ne l'a marqué. C'est vraiment un des seuls présidents de la 4e et de la 5e à avoir mis sa marque. Alors, peut-être c'était une époque faste, et peut-être aujourd'hui serait-il difficile de le faire, mais en attendant, il disait que partout où il arrivait, il se sentait une âme d'architecte. Mais il a fait confiance aux autres, aux vrais architectes.
L'abbaye est l'architecte, d'ailleurs. Hein, c'est le titre d'un de ses livres. Il avait, alors, là aussi, je l'ai appris dans votre livre, mais je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est vrai, il avait envisagé de faire abattre la Tour Eiffel.
Alors, voilà, ça c'est interrogation, et malheureusement, son beau-frère Roger Hanin raconte dans un de ses livres qu'à un moment donné, il lui a dit qu'il faudrait faire raser la Tour Eiffel, vraiment c'est trop laid. Et... Roger Hanin, qui n'en revenait pas, a dit, mais enfin, vous pensez vous parler sérieusement? Il a dit, si, mais personne ne peut me le confirmer. J'ai demandé à son fils Gilbert s'il savait quelque chose. Il m'a dit non. Alors, c'était peut-être une plaisanterie entre les deux beaux-frères. Je ne saurais jamais et on ne saura jamais.
Eh bien, on essaiera de se faire une idée.
Assassiner la Tour Eiffel, j'imagine.
En lisant votre livre, Michel Cotta, le Paris de Mitterrand, la capitale Paris, selon François Mitterrand, ça paraît aux éditions Alexandrine. Merci Michel Cotta et bonne journée.